Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour Fidèle au poste, votre émission de culture et de pop culture, tous les jours en début d'après-midi. En quoi cette semaine est-elle différente des autres semaines? Eh bien, toutes les autres semaines, nous parlons de toutes sortes de sujets. Et cette semaine, Fidèle au poste sera entièrement consacrée à Pessard. Mais Pessard, vu d'un point de vue de la culture et de la pop culture. Aujourd'hui, nous partons donc à la découverte du texte biblique tel qu'il est retracé au cinéma, dans la musique et à la radio.
Es geschehen Tag über mein Taten. Ihr sagt, Siegele gewähn, her, da masse Matten. Kimmt der Ketz und sieht nicht feuer, hab du Siegele in Mäuel. Chagat jo, chagat jo, chagat jo. Ich gedenk, wenn wir gale, es nicken für den Siegele. Chagat jo, chagat jo, chagat jo. Geloi no we, geloi jo we, geloi no we. Gelai no way, Kaiser Melech. Chevre, 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 bon yerkad yachad. Venashira, venashira, venesmacha, venesmacha. Anu, anu, b'nei Tzion, Av Yisrael chai. Gelai no way, gelai yo way, gelai no way, Kaiser Melech. Gelai no way.
Passover medley, les Barry Sisters.
Le feuilleton de la semaine.
En cette période de Pâques juive, nous nous intéresserons cette semaine à l'épisode biblique de la sortie des Hébreux d'Égypte que l'on retrouve dès les origines raconté au cinéma. Dès 1905 et 1911, des films pâtés, par exemple, mettent en avant la figure de Moïse dans des films qui se révèlent très vite propices à des fresques spectaculaires. Et même Cécile B. 2000, dès 1923, réalise les 10 commandements. Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est son propre remake de 1956, le fameux 10 commandements avec Charlton Heston. C'est quand même assez rare qu'un cinéaste réalise lui-même un remake de son propre film. Il faut dire que dans la version hollywoodienne de 1956, il a eu à sa disposition des moyens considérables, puisque la Paramount lui avait donné carte blanche, à la fois financière et artistique, pour réaliser sa fresque biblique. Un studio lui avait entièrement été confié et on lui donna le temps nécessaire, 3 ans pour l'écriture et 7 mois pour le tournage, avec des moyens quasiment illimités. D'ailleurs, pour son film, Cécile B. DeMille demanda au plus grand spécialiste de l'Égypte antique et du monde oriental de venir le conseiller. Au final, 10 000 figurants et 100 000 accessoires pour un budget estimé à 13 millions de dollars. Victime d'une attaque cardiaque durant le tournage, le réalisateur Cécile B. DeMille retourna travailler sur le plateau contre l'avis de ses médecins après seulement 2 jours d'arrêt. Bref, vous avez certainement tous vu ce film avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse, Yul Brynner dans le rôle de Pharaon, Anne Baxter, Edward G. Robinson et Yvonne De Carlo dans les rôles principaux.
Entends la plainte des Égyptiens.
Ils se plaindraient plus fort s'ils devaient faire les briques. On les disperse.
Le peuple a déjà connu la plaie de la soif, la plaie des grenouilles, des moustiques, des temps, de la peste et des pustules. Il ne peut endurer plus.
Retournez dans vos maisons.
Pourquoi amènes-tu cet hébreu malfaisant devant moi?
Le peuple déserte les temples. Il se détourne des dieux.
Quel dieu? Vous, prophètes et prêtres, avez créé des dieux pour profiter de la frayeur des hommes. Quand le Nil est devenu rouge, moi aussi j'ai eu peur. Mais depuis, j'ai su qu'une montagne au-delà des cataractes crachait une terre rouge qui empoisonnait toutes les eaux. Est-ce le bâton que je t'ai donné qui en est la cause? Est-ce un miracle de ton Dieu qui a fait mourir les poissons et sortir les grenouilles des eaux? Est-ce un miracle si les moustiques et les temps se sont abattus sur des charognes, apportant la peste aux hommes et aux bêtes? Tous ces phénomènes sont l'œuvre de la nature, et non l'œuvre de ton Dieu. Maintenant, va.
Afin que tu saches réellement que c'est l'œuvre de Dieu. Et puisque ton cœur reste endurci, tu verras la grêle tomber d'un ciel limpide et brûler sur le sol comme du feu.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Émission spéciale Pessah, après ce classique du cinéma qui a marqué des générations, petit extrait d'Indiana Jones et des aventuriers de l'Arche perdue. Et puis n'oubliez pas que Fidèle au poste est aussi disponible en podcast sur le site de la radio.
Renwood, USA.
Les nazis ont découvert Tanis.
Mais qu'est-ce que c'est que Tanis?
C'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'Arche d'Alliance.
L'Arche d'Alliance?
L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements.
Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements?
Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures.
Vous n'allez jamais au catéchisme?
Mais... Les Hébreux recueillirent les morceaux des tables de la loi dans l'Arche et quand ils s'en allèrent à Canaan, ils déposèrent-ci dans un temple, le temple de Salomon.
À Jérusalem.
Où elle resta de nombreuses années. Jusqu'à ce qu'un beau jour, elle disparaisse.
Où ça?
Ah, ça, personne ne sait ni où, ni quand.
Cependant, un certain pharaon du nom de...
Shishak.
Ah oui, s'empara de la ville de Jérusalem en 990 avant Jésus-Christ, et peut-être emporta-t-il l'Arche d'Alliance jusqu'à la cité de Tanis. Et là, croit-on, elle serait cachée dans une salle secrète, le Puits des Âmes.
Le Puits des Âmes.
Malheureusement, un an à peine après le retour triomphal du pharaon en Égypte, la tranquille cité de Tanis fut engloutie, dévorée par le désert lors d'une tempête de sable qui dura toute une année. Réduite à néant par la colère de Dieu.
Ah. Je vois que vous êtes sûrement l'homme qu'il nous faut. Oui, vous semblez tout savoir sur cette ville de Tanis.
Non, pas du tout. Non. C'est Abner Ravenwood qui est l'expert. On lui doit les premières études sérieuses sur Tanis et il en a récupéré quelques vestiges. Et c'était son obsession. Mais il n'a jamais retrouvé la ville.
Franchement, nous nous méfions quelque peu de ce monsieur Ravenwood, un Américain figurant en si bonne place dans un câble nazi, un câble secret.
Oh, mais c'est absurde, Ravenwood n'a rien d'un nazi.
Vous croyez, mais qu'est-ce que les nazis lui veulent alors?
De toute évidence, les nazis sont à la recherche du pommeau médaillon du grand bourdon de rat, et ils croient que c'est Ravenwood qu'il possède.
Mais qu'est-ce que c'est donc un pommeau médaillon de bourdon?
Le bourdon en question est un bâton à peu près haut comme ça. Personne n'a une idée précise de sa vraie taille. Il est... disons, couronné d'un pommeau en forme de médaillon, qui représente le soleil, avec un éclat de cristal au centre. On procédait de la manière suivante. Muni de ce bourdon ou bâton, on pénétrait dans une salle secrète de Tanis, qui contenait une miniature de la cité, une maquette. Alors, si le bourdon était placé à un certain endroit et à une certaine heure, le soleil traversait le cristal, et immédiatement, un rayon se formait et touchait la maquette là. Ce qui vous donnait l'emplacement du Puits des Âmes.
où l'Arche d'Alliance se trouve théoriquement, n'est-ce pas ?
Et c'est de l'Arche, évidemment, que les nazis voudraient s'emparer.
Cette Arche, de quoi a-t-elle l'air ?
Vous allez la voir, j'ai une gravure ici. Voilà.
Mon Dieu.
Oui, c'est exactement ce que les Hébreux ont dit.
Mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de rayons ?
Des éclairs, le feu du ciel, le pouvoir de Dieu, puissance absolue.
Je commence à comprendre pourquoi Hitler s'intéresse à l'Arche perdue.
Oui. Selon la Bible, l'Arche d'Alliance peut raser les montagnes et dévaster des régions et des pays entiers. Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible.
Matzomen.
Fidèle au poste, Radio Judaïka.
On vous a préparé un petit podcast aux petits oignons, ou plus précisément à la matza. Fidèle au poste a tendu son micro et collecté quelques impressions sur la matza, cette madeleine de Proust de Pessar.
Vraiment, avant tout et avant de discuter de du bien fondé de la matza sur le plan biblique ou autre, sur le plan historique, je crois que chaque année, quand on consomme et on déguste de la matza, c'est un peu à l'image de la madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'à chaque bouchée, on se remémore toutes les belles histoires familiales et toutes les réunions familiales. Et je crois qu'avant tout, c'est ça la matza pour beaucoup.
Matza ? La matza, c'est la galette. Ça fait référence à une des principales fêtes de notre religion. Et c'est le moment où on va, pendant une semaine, faire pénitence, se rappeler du passé, la traversée du désert. C'est le régime, hein, pendant une semaine. Pendant une semaine, c'est le régime, voilà.
Mon grand-père, à l'époque, était d'origine constantinoise, nous faisait vivre le Pessar à l'ancienne. C'est-à-dire, il n'y avait rien. C'était vraiment à l'ancienne, la dureté. Il fallait qu'on ressente cette semaine dans le désert. C'était galette, matin, midi et soir, une tolérance pour cette espèce en fromage de boule rouge. Et puis les petites galettes à l'orange, enfin les gros carrés à l'orange, point barre.
Les préparatifs de la fête juive de Pessah, une fête qui va durer une semaine et commémore la sortie d'Égypte des Hébreux, alors réduits en esclavage, puis leur arrivée en terre promise. L'un des symboles de cette fête, c'est la galette sans levain qui se substitue au pain. En hébreu, on l'appelle la matza.
Et moi, je me rappelle, mon père, pendant le Seder, il coupait la matza en deux. C'était le moment où vraiment, c'est le symbolique de la mer rouge, etc. C'est très important. On ne pourrait pas faire une année sans cette période de pénitence. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais...
Et pour moi, c'est les gâteaux de... Je ne sais pas si on peut l'appeler un gâteau, mais ma grand-mère, bon, d'origine hongroise, hein, est dans le kibbutz en plus. Donc c'est la cuisine dans le kibbutz, c'est toute une histoire parce qu'on avait le réfectoire, personne ne faisait vraiment la cuisine chez eux. Et elle faisait un certain gâteau de couche avec les matzot, avec un chocolat, avec une crème ou quoi. Et parfois, même si on n'a pas cette impression, le matzot est rompu. C'est font au-delà de remplacer quelque chose, mais créent un univers eux-mêmes, j'ai l'impression. Et il y a quelque chose de très particulier et spécial et incroyable même du fait qu'on doit attendre un certain moment pour goûter juste un petit truc comme ça.
Mon grand-père, qui avait un goût prononcé pour l'histoire, pour les symboles, les traditions, qui réunissait non pas à l'entrée de Pessah, mais à l'issue de la fête de Pessah, qui réunissait ses enfants et ses petits-enfants, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup, grâce à Dieu, et qui bénissait ses enfants et ses petits-enfants symboliquement, avec un paquet de matza et une fleur avec laquelle il un peu comme les Kohanim d'antan, aspergeaient leurs enfants ou leurs fidèles de lait.
Pour moi, c'est réservé à cette fête. Je pourrais pas manger de lait. Bon, d'abord, j'aime pas super bon. C'est pas super bon. Ça reste un peu sur le ventre. Mais quand même, on trouve. C'est très rigolo parce que on trouve. C'est pas un truc super bon, d'accord. Mais chaque fois que arrive cette fête, on essaye. Enfin, moi, je sais que avec ma sœur, ma mère, mes belles-sœurs, on essaye de trouver des recettes qui soient des recettes de la vie courante de tous les jours et qu'on essaye d'adapter la matza aux recettes de... Alors, on fait des lasagnes. Nous, maintenant, on fait des lasagnes, des pizzas, des galettes perdues. C'est super bon. Bon, donc, il faut que ça passe. C'est juste qu'il faut qu'on remette un petit peu de guetter à cet ingrédient qui est brut comme ça, et évidemment on n'a pas envie de manger plus qu'une semaine, quoi.
Je connais des gens, j'ai des amis en Israël qui savent garder toujours une petite boîte de matzot pour l'année parce qu'ils aiment autant ces petits trucs secs et qui fait mal en fin de compte à la gorge.
Lorsque les Hébreux ont quitté l'Égypte, le pain azim a été longtemps consommé uniquement pendant la Pâque juive.
Ça m'arrive de manger en dehors de Pessah, de la matza, et je ne sais pas pourquoi j'éprouve plus de plaisir à la manger en dehors, alors que quand je la mange pendant Pessah, je râle tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est psychiatrique, je crois. Alors moi, ma mère, elle a un truc, elle me fait rire, c'est que c'est vrai qu'on achète toujours plus en réalité de paquets matzah qu'il en faut, mais ma mère aime bien la manger pendant l'année. Et quand elle la mange pas, elle dit, l'année dernière, c'est normal, ils l'ont raté. Elle est pas bonne. Donc elle a dit, cette année, on va voir.
Moi, en fait, je commence ma cure pendant Pessah et elle dure généralement plus d'un mois, deux mois derrière, parce que j'adore ça, moi, en fait. Et donc, j'en mange tout le temps après. J'en mange. Donc après, moi, les boîtes, elles sont finies. J'en achète à d'autres moments de l'année parce que j'aime bien le goût. En fait, le goût me plaît. C'est un côté, en fait, enfantin depuis l'enfance. J'aime bien. Nous, on la cache. On va la chercher avec les enfants. Et puis, moi, j'adore ce goût-là, en fait. Ça me rappelle un peu toute mon enfance. Donc, ça fait. Je continue la tradition jusqu'après Pessah.
La ficomane, cette matza que l'on cache bien souvent alors sous la nappe de la table pour certains, on demande aux enfants de casser, de cacher pardon, la matza, et c'est eux qui vont, même si la nuit arrive à grands pas et qu'ils sont pas forcément toujours très en place pour manger de la ficomane, on y arrive difficilement, mais on y arrive. Mais c'est vrai que la ficomane est un moment où on s'arrête, où là aussi c'est une manifestation de transition entre un moment important de ce corban, de ce sacrifice, et un moment où on dit à nos enfants, halte, ça suffit, on a mangé suffisamment de matzot, maintenant il est temps d'aller dormir. C'est ce symbole merveilleux que nous offre la matza, et en l'occurrence ici la ficomane.
Alors nous, on avait une astuce, c'est que on mettait la matza, quand on doit la cacher sous la nappe, on la mettait aux plus jeunes. Et en fait, il fallait pas qu'elle se casse. Et si elle se cassait, on n'avait pas le cadeau. Et si elle se cassait pas, on avait le cadeau. Donc, on était contents.
Alors ça, c'est la même tradition d'ailleurs que je retrouve depuis que je suis mariée. Nous, on mettait dans une serviette la partie de la galette qu'on devait cacher et on l'accroche au bras d'un des plus jeunes enfants. Donc en fait, on lui dit de partir, c'est la symbolique, et de revenir. Et à la fin, il a un cadeau. Il nous rend le morceau de galette et on lui donne un cadeau. Je sais pas si c'est comme ça partout. Nous, on continue à faire ça. Donc maintenant, sauf que maintenant, moi, mes enfants sont grands. Donc, ils veulent plus... Voilà, la dernière, elle veut pas avoir une serviette autour du bras. Donc, c'est pour ça qu'on invite toujours plein de monde pour le CEDER et qu'il y ait toujours des plus petits pour faire la ficomène.
Le pain azyme est surtout consommé au printemps lors de la Pâque juive. Pour rester cachère, le pain azyme doit être cuit en moins de 18 minutes, car il ne doit absolument pas lever.
Ma mère est d'origine constantinoise, et chez les Constantinois, il y a un plat sacré, vénéré, qui s'appelle le hormo. En bref, qui est une sorte de bouillon avec des légumes, de la viande, et tu piles de la galette, et tu verses le bouillon dessus, c'est très bon sur le coup, mais après... Voilà, au secours les indigestions. Mais c'est vrai que c'est le plat local, et en sucré on appelle ça, c'est des petits beignets à base de matza. Il y a un nom arabe, je le connais pas, enfin je m'en rappelle plus.
Mon plus vieux souvenir de matza, c'était de voir ma grand-mère faire des beignets de matzot. Alors bon, après je ne saurais pas exactement en quoi ça consistait, mais le seul souvenir que j'en ai, c'est de la dégustation, bien entendu.
Moi, je fais des sfedj. C'est des beignets. On fait avec des œufs, de la semoule de matza, du citron, des jus d'orange, du sucre, et qu'après tu mets dans le miel. Ça ressemble à des beignets de toute l'année, hein, faut pas croire. Hein. Et c'est très très bon. Mais moi, je les agrémente avec de la pomme aussi.
Alors nous, on innove les matzot. Notre tradition, c'est on prend un bol de café au lait le matin et on casse la matza dedans. Et on fait ça tous les matins pendant la semaine de Pessah.
Je me souviens, et c'est peut-être une pensée affectueuse à mon papa, je me souviens de mon papa qui, tous les matins, pendant 8 jours, prenait le pilon. Et puis chaque matin, il pilait je sais pas combien de matzot, et il laissait pour que lui, ma maman, ses enfants puissent faire un café au lait dans lequel il plongeait de la matza et le sucre, à tel point que ma maman lui disait, mais on ne sait même plus reconnaître le café au lait de la matza, du sucre. Donc après, oui, la matza a une particularité, c'est qu'elle absorbe, c'est comme une éponge. Elle absorbe jusqu'à en dégorger. Après, dans un repas classique, c'est vrai que je ne sais pas si un jour on y est arrivé à saucer avec de la matza.
Comme on ne peut pas saucer, ça le problème, c'est qu'on ne peut pas saucer. Il y a des super bons plats et on ne peut pas saucer. Donc il fallait qu'on réinvente un truc, tu sais, toujours pour recoller à finalement notre quotidien dont on a du mal à se séparer. Et il fallait faire comme quelque chose pour avoir du pain, une consistance un peu molle. Donc on faisait des sphériettes en quantité astronomique. On achetait les boîtes d'œufs de 48, ces trucs énormes là. Et on y va et on faisait ces sphériettes qu'on ne mettait pas du tout dans le miel. Et après, il faut les tremper dans le miel. On les faisait version salée. Donc, il y avait le plat de sphériettes où on mangeait, on sauçait avec ça. Donc finalement, on s'en sortait. On cherche toujours des petits arrangements. Alors, moi, mon grand-père était très religieux, mon grand-père paternel, donc il fallait pas manger la galette avant le soir du CEDER. Mais du côté de ma mère, c'était plus cool. Donc, dès qu'on savait que ça allait être le soir du CEDER, avant, on rentrait de l'école à 4h30 et on avait dans le café au lait, on coupait la galette sucrée. Et ça, c'était l'ouverture de la fête. Ça, c'est top. Ce goût-là, il faut l'avoir vécu pour savoir, mais ça, c'est un moment d'enfance très important.
Il y a des temps dans la vie, des moments où on aime se retrouver autour de plats. Après, bon, comme on a chacun sa fête préférée, moi, ma fête préférée, c'est Pessard. C'est Pessard parce que pour moi, Pessard, c'est vraiment une fête de coutume et de tradition. Tu ne trouves pas un Pessard pareil dans une famille juive que dans une autre. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Ouais.
Eh bien, une matza, c'est du pain qui n'a jamais levé et qui ne lèvera jamais.
Alors, moi, personnellement, la matza, j'en mange spécifiquement à Pessard. J'écoule les stocks un petit peu après, mais il arrive parfois que d'une année sur l'autre, on en a, et on ne peut pas les garder non plus.
Pour vous dire la vérité, c'est que à l'issue de la fête de Pessard, qui dure quand même 8 jours, je ne vois pas ni mes enfants, ni moi-même, ni mon épouse, ni voilà, autour de moi, consommer de la matza. Elle devient entre guillemets accessoire et on ne l'utilise plus, on ne s'alimente pratiquement plus avec.
Un grand merci à Lionel, Marie-Laure, Karine, Daniel, Corinne, Megan, Sylvie et Uri. Vous l'avez compris avec ce générique, l'émission du jour se termine. Merci de votre écoute. Demain, nous poursuivrons notre voyage à travers l'Exode et la sortie d'Égypte des Hébreux. Alors, rendez-vous à 14h pour Fidèle au poste.